Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans l'extase totale, le Troisième Reich, les Allemands et la drogue, Norman Holler propose un essai historique consacré à la place des substances psychotropes dans l'Allemagne nazie. Traduit de l'allemand et fondé sur des archives, notamment médicales et militaires. L'ouvrage examine, un phénomène souvent relégué à la marge des récits du régime, la diffusion de la méthamphétamine, vendue sous le nom de pervitine. Son emploi dans la Wehrmacht et les traitements administrés à Adolf Hitler par son médecin personnel, Theodor Morell. Holler ne réduit pas l'histoire du Troisième Reich à une explication pharmacologique. Son propos est plutôt de montrer que les drogues ont constitué un facteur matériel et culturel important lié aux impératifs de rendement, à la mobilisation guerrière et à l'exercice du pouvoir. L'essai articule ainsi histoire sociale, histoire militaire et étude des cercles dirigeants. Son objectif est de déplacer le regard, comprendre comment l'obsession nazie de vigueur, de discipline et de performance a pu coexister avec une consommation massive de stimulants et de narcotiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la pervitine révèle le paradoxe d'un régime prônant la pureté tout en stimulant artificiellement les corps. L'un des apports centraux de l'extase totale consiste à mettre en évidence l'écart entre l'imagerie officielle du national-socialisme et certaines pratiques concrètes de la société allemande. Le régime valorisait la santé, la force physique, la sobriété et la pureté du corps national. Il menait aussi des politiques répressives contre des comportements jugés dégénérés. Pourtant, la méthamphétamine commercialisée sous le nom de pervitine s'est largement diffusée dans les années 1930. Holler décrit une substance accessible et associée à des promesses très compatibles avec les exigences de l'époque d'avantage d'énergie, moins de fatigue. Concentration accrue et capacité à prolonger l'effort. Sa consommation ne concernait donc pas uniquement les élites politiques ou les milieux marginaux, mais des catégories variées, des travailleurs aux étudiants, en passant par les femmes au foyer et les soldats. Ce contraste ne relève pas d'une simple hypocrisie anecdotique. Il montre qu'un État autoritaire peut condamner certaines dépendances tout en tolérant, voire en favorisant indirectement, celles qui paraissent servir la productivité, l'obéissance ou la mobilisation. Le livre invite ainsi à considérer la drogue non comme un élément extérieur à l'ordre nazi, mais comme un révélateur de son rapport instrumental aux individus, un corps est valorisé tant qu'il produit, endure et avance. Deuxièmement, la guerre éclair apparaît aussi comme une guerre de l'endurance chimiquement soutenue. Holler accorde une place décisive à l'usage militaire de la pervitine, à travers les documents médicaux et les sources relatives aux troupes. Il rappelle que le stimulant fut distribué à des soldats allemands afin de leur permettre de rester éveillés et opérationnels pendant de longues périodes. Cette donnée éclaire matériellement les conditions de certaines offensives rapides du début de la guerre, en particulier l'exigence de mouvements continus, de vigilance prolongée et de prise de risque dans un rythme opérationnel extrême. L'intérêt de cette analyse est de ne pas mythifier la performance militaire allemande comme le seul produit d'une doctrine supérieure, d'une discipline exceptionnelle ou d'une supposée vigueur nationale. Les capacités humaines avaient des limites, la pharmacologie pouvait temporairement les repousser. Mais l'ouvrage souligne aussi le coût de cette logique, l'épuisement, les phases de récupération. Les troubles du jugement et la dépendance rendent illusoire toute vision de la drogue comme solution durable. La pervitine n'explique donc pas à elle seule les succès initiaux de la Wehrmacht, qui tiennent aussi à des facteurs stratégiques, organisationnels et politiques. Elle aide néanmoins à comprendre comment une armée a cherché à transformer des soldats en instruments d'action continue. Le stimulant devient ici un outil de guerre, révélateur d'une stratégie qui consomme les corps à la même vitesse que les ressources. Troisièmement, le dossier médical d'Hitler replace Theodor Morell au cœur de la dépendance du pouvoir. Le livre consacre une part importante à la relation entre Adolf Hitler et son médecin personnel, Theodor Morell, en s'appuyant sur les prescriptions et les notes médicales disponibles. Holler décrit une relation de dépendance dans laquelle le médecin fournit aux dirigeants un ensemble de traitements et d'injections comprenant, selon les périodes, des stimulants, des opiacés, des hormones et d'autres préparations. L'enjeu ne se limite pas à l'inventaire des substances. Il est d'analyser une configuration de pouvoir Hitler dépend de Morell pour maintenir son énergie, atténuer ses symptômes et préserver sa capacité à fonctionner, tandis que Morell tire son influence de son accès privilégié au dictateur. Cette proximité médicale devient politiquement significative, car elle isole davantage le patient et donne au médecin une place inhabituelle dans l'entourage du chef du régime. Holler utilise ce matériau pour fragiliser le mythe d'un Führer ascétique, maître de lui-même et entièrement détaché des plaisirs ou des béquilles chimiques. Toutefois, l'analyse exige de conserver une distinction essentielle, une dépendance et une dégradation physiologique peuvent affecter l'état d'un dirigeant. mais elles ne suffisent pas à expliquer son idéologie ni les crimes du régime. Le mérite du livre est de rendre visibles les médiations corporelles du pouvoir sans transformer la toxicomanie en alibi historique. Quatrièmement, l'ouvrage refuse d'expliquer le génocide par la drogue et préserve la responsabilité politique nazie. Un point analytique essentiel de l'extase totale est la limite qu'Holler pose lui-même à son interprétation. L'auteur soutient que l'on ne comprend pas pleinement le Troisième Reich sans prendre en compte les drogues. Il ne prétend pas pour autant que celle-ci explique la guerre d'extermination, l'antisémitisme d'État ou la décision génocidaire. Cette précaution est fondamentale. Attribuer les crimes nazis à une intoxication générale ou au traitement d'Hitler risquerait de dépolitiser une entreprise de domination fondée sur une idéologie raciste. Des institutions, des bureaucraties, des intérêts et des choix conscients. Holler rappelle ainsi que les orientations les plus criminelles du régime avaient été conçues et engagées avant que l'usage intensif de médicaments par Hitler n'atteigne les formes, les plus documentées de la fin de guerre. La drogue est donc un facteur de contexte, de fonctionnement et parfois d'aggravation. Elle n'est pas une cause unique qui dissoudrait les responsabilités. Cette distinction donne au livre sa portée méthodologique. Une histoire attentive au corps, à la fatigue, à la dépendance et aux produits pharmaceutiques peut enrichir l'histoire politique sans s'y substituer. Elle oblige surtout à résister aux explications spectaculaires et monocausales. La violence nazie ne fut pas le délire incontrôlé d'individus intoxiqués, elle procéda d'un projet idéologique et administratif poursuivi par des acteurs responsables de l'heure. Acte. En dernier lieu, la pharmacologie devient une grille de lecture du rendement, de l'illusion de maîtrise et de l'effondrement. Au-delà des épisodes militaires et du cas Hitler. Holler propose une lecture plus large de la modernité nazie. La drogue accompagne une culture de l'accélération et de la performance. La pervitine promet de supprimer provisoirement les signaux ordinaires du corps, fatigue, peur, découragement, et de donner l'impression d'une maîtrise accrue. Dans une société mobilisée vers le travail, la guerre et le sacrifice, cette promesse possède une forte valeur politique. Elle permet de demander davantage aux individus sans résoudre les contraintes réelles auxquelles ils sont soumis. Le stimulant ne crée pas une énergie illimitée. Il reporte la dette physique et psychique. Cette logique aide à comprendre pourquoi l'histoire racontée par Holler ne se réduit pas à une phase d'euphorie militaire. Les gains immédiats peuvent s'accompagner de désorganisation, de comportements imprudents et d'épuisement, tandis que les besoins de contrôle médical augmentent. La trajectoire du Reich, sans pouvoir être ramenée à un mécanisme chimique, se prête ainsi à une interrogation sur les limites d'un système fondé sur l'intensification permanente. Le livre articule donc l'histoire des substances à une critique des fantasmes de toute puissance croire qu'une pilule, une injection ou une technologie peut abolir les limites humaines revient souvent à masquer les coûts futurs. C'est cette dimension, à la fois sociale et politique, qui donne à l'essai une portée dépassant la seule histoire de la toxicomanie. En conclusion, l'extase totale s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale qui souhaitent dépasser les récits centrés exclusivement sur les batailles, les institutions ou les grands dirigeants. Il intéressera également les lecteurs sensibles à l'histoire de la médecine, de l'industrie pharmaceutique, des dépendances et des usages politiques du corps. Son bénéfice intellectuel principal est d'introduire une variable concrète, longtemps sous-estimée les substances modifient les rythmes de travail, l'endurance militaire, la perception de la fatigue et les rapports de dépendance au sein du pouvoir. Cette perspective n'impose pas une clé explicative totale. Elle enrichit au contraire l'analyse en montrant comment une idéologie et une machine de guerre s'incarnent dans des organismes vulnérables, épuisables et médicalisés. Par rapport à de nombreuses synthèses sur le Troisième Reich, l'ouvrage se distingue par son angle transversal. Holler relie la circulation sociale de la pervitine, les besoins opérationnels de la Wehrmacht et le dossier médical d'Hitler au lieu d'isoler ses sujets. Son écriture narrative et son usage d'archives rendent accessible une enquête qui reste centrée sur des faits matériels. Le lecteur doit néanmoins l'aborder comme un essai d'interprétation, les drogues éclairent certains mécanismes du régime, sans annuler le poids déterminant de l'idéologie raciste, des décisions politiques et des responsabilités individuelles. C'est précisément cette tension qui fait l'intérêt durable du livre, il oblige à regarder le Troisième Reich sous un angle inhabituel, tout en rappelant qu'aucune explication chimique ne saurait absoudre ses auteurs. Si vous souhaitez soutenir Norman Holler, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.